Drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljam.
Chers collègues, bienvenue à la rencontre de la Troïka présidentielle. Aujourd'hui, l'interprétation en slovène, en français et en slovène est disponible. Cette réunion est enregistrée pour pouvoir préparer le procès-verbal. Je souhaite la bienvenue aussi à Madame Roberta Metsola, vice-présidente du Parlement européen, Monsieur Kopulas Santos, président de la Commission des affaires européennes au Parlement portugais, ainsi que Madame Sabine Tillet, présidente de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale française, et Monsieur Jean-François Rapin, président de la Commission des affaires européennes au Sénat français. Et je tiens aussi à féliciter Madame Roberta Metsola pour sa récente nomination. Je tiens à vous informer que Monsieur Antonio Tajani, le président de la Commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen, s'est excusé pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais présider cette réunion ensemble avec mon collègue Bojan Kekec, président de la Commission des affaires internationales européennes au Conseil national slovène. Et je lui passe la parole. Chère vice-présidente, chers collègues, bienvenue aussi en mon nom à cette réunion de la Troïka. J'espère que la réunion se déroule dans un esprit de coopération et qu'elle sera fructueuse. Merci, cher collègue Kekec. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite la parole? Comme vous avez été informé, vous pouvez demander la parole en envoyant le message à travers le canal pour le chat. D'accord, on passe au premier point sur l'ordre du jour, c'est-à-dire l'adoption de l'ordre du jour de la Troïka présidentielle, l'ordre du jour que le projet de l'ordre du jour vous a été envoyé. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole à ce sujet? Non, ce n'est pas le cas, donc l'agenda est adopté. On passe au deuxième point, à savoir l'adoption du projet de programme de la 66e session plénière de la COSAC qui aura lieu les 29 et 30 novembre, la semaine prochaine. Donc je vais vous présenter brièvement le contenu de cette réunion. Conformément à la pratique habituel, le premier thème sera consacré aux résultats de la présidence slovène au Conseil de l'UE, qui sera présenté par Monsieur Gašper Dovžan, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Le deuxième panel débat sur la région des Balkans occidentaux, leurs perspectives européennes et la coopération renforcée dans la région. Les intervenants principaux seront le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de la Slovénie, M. Gašper Dovžan, le président de la Commission des intégrations européennes à l'Assemblée du Monténégro, M. Gvozdenović, la membre de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée de la Macédoine du Nord, Mme Petrovska. Par contre, le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, M. Oliver Vajeli, ne pourra pas être présent et il va s'adresser à l'Assemblée un message vidéo. Troisième panel sera consacré aux jeunes et à leur rôle pour l'avenir de l'Europe. La parole sera donnée à la vice-présidente du Parlement européen, Madame Metsola. Ensuite, le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de la Slovénie, Monsieur Orehovec, et la coordinatrice de l'Union européenne pour les jeunes, Madame Sirakova. Ensuite, la parole sera donnée aussi au vice-président de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale slovène, Monsieur Prebil, ainsi qu'à la vice-présidente du Forum européen des jeunes, Madame Anja Fortuna. Ensuite, ensuite le dernier, le quatrième panel, il sera consacré à la conférence sur l'avenir de l'Europe, où nous parlerons de la situation actuelle, du développement des événements dans le cadre de la conférence. La parole sera donnée à Monsieur Guy Verhofstadt, député européen, ensuite à la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démocratie et de la démographie, Madame Schuica, et au niveau des parlements nationaux, les intervenants principaux seront Madame Sabine Tillet de l'Assemblée nationale française et Monsieur Jean-François Rapin du Sénat français. Ce sera par ailleurs aussi le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères slovène, Monsieur Gašper Dovžan, qui s'adressera à l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole? Ce n'est pas le cas, donc je constate que la Troïka n'a pas de commentaires sur le projet de programme de la 66e session plénière de la COSAC qui sera confirmée officiellement lundi. Nous avons donc conclu le deuxième point de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous passons au troisième point, à savoir la présentation de 303, du 36e rapport à mi-terme de la COSAC, qui a été rédigé sur la base du questionnaire envoyé par la présidence slovène aux parlements nationaux le 26 juillet, avec le délai pour les réponses fixé au 21 septembre 2021. Donc, nous avons réuni dans ce rapport les positions et les bonnes pratiques des parlements nationaux relatives à trois thématiques d'actualité, à savoir la numérisation des parlements pendant la pandémie et la transition numérique, ensuite la participation des jeunes dans les processus de prise de décision dans l'Union européenne et la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je vous invite maintenant à visionner le vidéo de présentation sur les résultats de ce rapport à mi-terme préparé par le représentant permanent du secrétariat de la COSAC, Monsieur Kenneth Kurmi. À vous la parole, Monsieur Kurmi.
Predlagam, da najprej začnemo z videoposnetkom, ker imamo nekaj tehničnih.
Je propose de visionner d'abord la vidéo. Nous avons quelques problèmes techniques, donc je demande la régie de lancer la vidéo, s'il vous plaît.
Thank you.
Ja, spoštovani, še enkrat bi pozval gospoda Kennedy.
D'accord. Je voudrais demander encore une fois à monsieur Kenneth Courmis de prendre la parole.
Okay.
So, thank you.
Merci.
Merci de m'avoir passé la parole et merci d'avoir montré la vidéo. Et je pense avoir couvert la plupart des thèmes et des dossiers qu'il va falloir affronter. Encore une chose, il y aura, on va télécharger le fichier sur l'Internet, donc vous allez avoir la possibilité de revoir éventuellement la vidéo ou de la reproduire à d'autres occasions ou offline. Donc, elle sera disponible sur le IPEX. Merci encore.
Prijetno predam besedo članicam in članom trojke.
D'accord, merci. Avant de passer la parole aux membres de la Troïka, je tiens à remercier M. Kenneth Courmi pour avoir préparé cette présentation très exhaustive. Nous allons la faire visualiser aussi au début de la session plénière de la COSAC, la semaine prochaine. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite la parole sur ce point? Ce n'est pas le cas apparemment, donc nous passons au point suivant. Point 4. C'est un point d'information. En effet, il s'agit de la présentation du projet de lettre de la présidence. Pendant la présidence slovène, marquée elle aussi par la pandémie, nous avons réussi à poursuivre un échange régulier des opinions, des expériences et des bonnes pratiques entre les parlements de l'Union européenne. Par vidéoconférence. Mais étant donné que les contributions ne peuvent pas être traitées ou adoptées par vidéoconférence, conformément à notre règlement, la présidence slovène s'apprête à préparer une lettre destinée à toutes les trois institutions de l'Union européenne, dans laquelle la présidence va présenter les activités et les points principaux des réunions de la COSAC pendant la présidence slovène. Je suis informée que M. Santos souhaite la parole. M. Kapolaš Santos.
Bonjour, chers collègues. J'ai demandé la parole tout seulement pour remercier à la présidence slovénie pour le rapport que vous venez de présenter et pour féliciter M. Kenneth Courmi de le remercier pour son excellent travail et de vous formuler des bonnes chances pour l'avenir. Merci beaucoup.
Dragi Santos, hvala.
Merci beaucoup, cher collègue Santos. Madame Thillet demande la parole aussi. À vous la parole, Madame Thillet.
Merci beaucoup. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Madame Thillet, malheureusement, on ne vous entendait plus. Nous ne vous entendions plus, nous ne vous entendons pas maintenant et nous ne pouvons pas vous interpréter. Maintenant, nous vous entendons.
Alors, félicitations pour la vidéo que je trouve très bien, très claire. Et aussi, j'aimerais soumettre peut-être à votre réflexion de faire des propositions pour faire évoluer le règlement, puisque nous savons tous pas vers où nous allons concernant la pandémie, et peut-être faudrait-il pouvoir s'adapter aussi malheureusement dans l'année à venir et éventuellement envisager de pouvoir adopter des contributions par visioconférence ou éventuellement justement voter par visioconférence. Merci.
Hvala vam za ta vaš nagovor. Sedaj pa besedo predajam.
C'est nous qui vous remercions, Madame Tillet, et maintenant c'est Monsieur Kekets qui prend la parole. Merci. Donc, point 4 sur l'ordre du jour. Présentation du point 5, pardon. Présentation du candidat pour membre permanent du secrétariat de la COSAC pour la période 2022-2023 et l'adoption de la proposition de nomination du candidat pour membre permanent pour cette période. Le membre permanent actuel, Monsieur Kenneth Courmi, est arrivé à la fin de son mandat. C'était son deuxième et donc son dernier mandat. Et je tiens à le remercier chaleureusement du travail qu'il a accompli sur cette fonction. La présidence slovène a donc adressé, a envoyé un appel à candidature à tous les parlements nationaux le 20 juillet 2021. Le délai est expiré le 15 octobre 2021 et dans ce délai, nous avons reçu une seule proposition de candidature de la part du Parlement portugais. Donc, pour la période 2022-2023, par contre, tous les parlements nationaux nous ont envoyé leurs lettres et je les remercie. Pour garantir la transparence et l'égalité de traitement dans cette procédure, la présidence slovène a préparé de la documentation d'information relative à la nomination du membre permanent du secrétariat de la COSAC qui vous a été distribuée. Vous avez également reçu la proposition de candidature de Monsieur Bruno Dias Pinheiro. Bonjour Monsieur. Et avant de lui passer la parole, permettez-moi de vous en dire quelques mots. La candidature a été présentée par le Parlement portugais qui fait partie de la Troïka présidentielle de la COSAC actuelle. Et vu la pratique habituelle, Monsieur Kapolesh Santos, en tant que représentant du Parlement portugais dans la Troïka, ne participera à ce point de l'agenda qu'en tant qu'observateur et il ne participera pas à la prise de décision sur la candidature. Les autres membres de la Troïka, par contre, sont invités à poser des questions aux candidats. Donc, je vous demande de lui poser une question chacun et après cette discussion avec le candidat, nous allons décider sur cette candidature. Je voudrais ajouter encore une information, à savoir que le Parlement espagnol et le Parlement belge ont déjà donné leur opinion positive sur le candidat Dias Pinheiro. Donc, Monsieur Dias Pinheiro, je vous demande de vous présenter brièvement et de nous dire comment les fonctions et les expériences de travail que vous avez eues jusqu'à présent vont vous servir pour accomplir la fonction de membre permanent de la COSAC.
Good morning. Thank you very much, dear Chair.
Bonjour et merci à la présidence, merci de cette opportunité qui m'est offerte. Je vais répondre tout de suite à la question. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans ma lettre de présentation et dans CV, je travaille au Parlement depuis 15 ans déjà.
I've spent more than eight in Brussels. My first job was actually at the COSAC Secretariat in 2007 during the previous Portuguese presidency, so I'm very familiar with with COSAC and with the COSAC Secretariat work since 2007, so for around 15 years. In my career in the Parliament, I have always been dealing with EU affairs. In fact, I have worked with all the permanent members of the COSAC Secretariat except for the first, Mr. Morten Knudsen, because I was not working at the Parliament at the time, but I've worked with Sarita, I've worked with all of them, so I know the positioning of their work and the way they've done their job. I'm also quite acquainted with the Brussels network because, as I've said, I've been in Brussels for 8 years, and I have the privilege to coordinate the group of national parliament representatives in Brussels for 3 years, together with my Spanish and Austrian colleagues. Moreover, I have followed closely the major interparliamentary developments since the European Convention, because I've been working in that field even before joining the parliament. I have followed around 80% of the COSAC meetings since 2006. And this gave me an insight not only on the procedure and practice of COSAC, but also on the main political trends affecting the work of COSAC since 2006, meaning before the Treaty of Lisbon and after 2009 with the Treaty of Lisbon in force. More recently, as you might know, I was also in charge of coordinating the staff level parliamentary dimension of the Portuguese EU Council presidency. And this is in fact what motivated me the most to apply for this job, because it's a very recent experience in which I could put all my experience and knowledge to the benefit of the parliamentary dimension. I was also in my previous career in the parliament head of unit for 5 years, which I believe gives me the managerial skill set to deal with this kind of challenges. And during the Portuguese presidency, as you might remember, it's still quite recent, we had to deal with many challenges: the pandemic, the beginning of the Conference on the Future of Europe, organizing everything remotely. And I have to say that I enjoyed it very much, which I now wish I can do the same and be useful in the same way to COSAC, not only to the benefit of my national parliament, but to the benefit of all national parliaments. Thank you.
Najlepša hvala. Sedaj pa besedo.
Thank you very much. And now I would like to give the floor to Mr. Pogačnik. Yes, dear Mr. Dias Pinheiro, welcome also on my behalf. Given your presentation, in the light of your experience, including in the field of
aussi dans le domaine de la COSAC, je voudrais vous demander quelle est votre vision pour le futur du travail du secrétariat de
Can you hear me? Yes. Yes, thank you. Well, I firstly have to say, as I've referred previously, I know the work of the previous permanent members, and I should start by paying tribute to their excellent work and highlight the fact that they set the bar really high for who comes next. All of them, they were all different in their profiles, in their backgrounds, but I think that the stakes are very high given the excellent work they've done in the past. My vision for the Secretariat or my expectations and changes. The Secretariat exists already for more or less 20 years. It was established in 2003, and the tasks were assigned. There are five main tasks, as you know, assigned in 2003, 2004. I think that my perspective is that these tasks should continue to be fulfilled. But at the same time, I think we should keep our minds open to other possible tasks that the presidency and the COSAC national parliaments and the European parliaments might want to attribute to the permanent member. I think that the Secretariat has passed the test of time. I think it has proven often that its value. It's unquestionable now that it's a pillar of the interparliamentary cooperation at staff level. I agree that this is always work in progress. So, firstly, I think that the task of the permanent member is to be the go-to person for not only the presidency, for the Troika members, but also for the other national parliaments. And for that, I when I first started in 2007, the first permanent member that I'm to work with was Sarita Kaukaoja from the Finnish parliament. And she is someone that I admire very much because she was the go-to person for virtually all the issues concerning Cossacks. So the permanent member should be relevant for newcomers because the permanent member is the only person who does this time this job full time. So that means that for instance, the Czech colleagues will arrive, the Swedish colleagues will arrive. This person has to be in a position to explain what the Cossack work entails, but also at the same time be the main source of advice, institutional memory and expertise for the presidency and for the Troika. This means anticipating the needs, identifying the list of tasks, and one thing that I think in which my profile can be useful, also put my network of contacts, because as I've highlighted, I've been in the Brussels, let's call it bubble, for 8 years. So I know the majority of the stakeholders in all the institutions, and I think this can be relevant for the presidency and for the Troika, especially when you first start in this job. Then on the other hand, I think that my perspective, my vision is that the permanent members should foster the dynamics and the cohesion and also the sense of belonging within the secretariat. Building a team spirit between everyone, which from the way I've seen it, and this is also what I've done in the previous managerial jobs that I've done, requires holding regular meetings for updates and to keep the flow of information going, because it smoothens the work stream and also builds confidence amongst the national parliaments represented in the Troika. Then another thing that I would like to also highlight is the work of the permanent member in the conference on the future of Europe, because I think that I've been following the conference since the very beginning, and Cossack is part of the executive board as a permanent observer, and I think the permanent member should also take part in those proceedings and assist the presidency and the Troika in everything that is needed. The permanent member works at the direction of the presidency. There have been some debates in recent years on what the role of the secretariat should be. What I can say is that you can expect from me that I will have a very open mind. I'll be ready and motivated to innovate and to adapt to new trends and new demands that the presidency and the national parliaments require of me. Thank you.
Gospod Diaz Pinheiro, hvala za vaš odgovor.
Thank you very much, Mr. Diaz Pinheiro, for your answer. And now I would like to give the floor to the chair of the Committee for the European Affairs of the French National Assembly, Mrs. Sabine Tillet. The floor is yours.
Merci, Monsieur le Président. Alors, je souhaiterais tout d'abord témoigner le soutien de l'Assemblée nationale à Monsieur.
Thank you very much. First of all, I would like to express the support of the French National Assembly to the candidacy of Mr. Diaz Pinheiro, who has all characteristics necessary for performing the function of the permanent member of the Cossack Secretariat, given the fact that also during the Portuguese presidency he cooperated with the Cossack Secretariat. He also cooperated with other bodies that are relevant in this regard in the past couple of years. My question is, how would you improve the flow of information among national parliaments? Here we need an efficient network that would enable us to come into contact with the positions, with the points of view taken by the European Commission. And there's a platform available for that. I believe it should be renewed. It's a platform called APEX. But I as far as I know, you are not too familiar with that. How do you see the role of the COSAC Secretariat to foster the exchange of information between the national parliaments and the EU institutions? What reforms and changes are possible in this regard, in your opinion?
En fait, merci pour la question. C'est très pertinent, si je peux le permettre, parce que, en fait, l'IPEX vient de lancer.
Thank you very much for this quite relevant question. IPEX has just prepared the new version of this platform 3.0, and it was
depuis 2016 au nom du Parlement portugais. Donc je connais bien son travail et je connais aussi le rapport avec la COSAC et le rapport avec les autres parlements nationaux. En fait, cette nouvelle plateforme a été beaucoup participée. Les parlements ont donné son avis pour les points à améliorer. Et elle comprend un ensemble d'outils à la disposition des parlements nationaux qui représentent une grande opportunité de donner une autre visibilité à son travail, y compris pour la COSAC. Les lignes directrices de l'IPEX stipulent que la COSAC participe et contribue au travail et aux réunions du Conseil de l'IPEX. Et moi, ma vision, c'est je veux effectivement participer et contribuer pour le développement de l'IPEX. Il y a quelques bonnes pratiques récentes à ce propos. Le membre permanent consulte les autres collègues du secrétariat avant les réunions du comité directeur de l'IPEX. Mais par exemple, et en parlant, je pense que votre point c'était plutôt la visibilité du travail et la circulation de l'information, IPEX, au début, c'était une plateforme pour télécharger les opinions. Là maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Si vous visitez la plateforme, vous avez par exemple une section pour l'actualité. C'est-à-dire, par exemple, si la présidence française veut donner visibilité à un certain sujet, par exemple, une rencontre informelle avec un commissaire, ou par exemple, pour donner visibilité aux questions pour le rapport semestriel, il y a une section qui est dans la page principale de l'IPEX pour donner cette visibilité. Par exemple, si l'Assemblée nationale française adopte une position et d'une certaine façon veut donner visibilité à ça, cette section marche aussi pour ça. D'un autre côté, il y a la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a aussi un volet spécifique pour y mettre. Par exemple, chez nous au Portugal, on fait maintenant un ensemble d'événements nationaux et on va télécharger dans cette section les rapports qu'on va faire, par exemple. Ça, c'est une possibilité. D'un autre côté, à mon avis, l'IPEX a développé une stratégie pour les réseaux sociaux. IPEX est présent sur Twitter. Moi, j'étais au début de ce projet avec ma collègue suédoise. Et je pense qu'il y a aussi là-dedans des possibilités pour améliorer. Et la circulation de l'information, à mon avis, doit être faite pas uniquement quand on a des réunions de la COSAC, mais pendant tout le semestre. Et pour ça, je reste à votre entière disposition pour ça. Et un point pour terminer, soit le membre permanent de la COSAC, soit l'agent d'information de l'IPEX, sont les deux ressources qui sont cofinancées par tous les parlements. Donc, de mon point de vue, ils ont, les deux personnes qui jouent ce rôle, ont une responsabilité accrue de proactivité et dynamisme pour améliorer cette circulation de l'information. Merci.
Hvala lepa, kolegica Tillet, za vprašanje in seveda hvala.
Merci beaucoup, cher collègue Tillet, de ces questions. Merci aussi aux candidats de ces réponses. Et je passe maintenant la parole au président de la Commission des affaires européennes au Sénat, Monsieur Jean-François Rapin. À vous la parole.
Merci, Monsieur le Président. M'entendez-vous? Oui, vous m'entendez. Merci. Oui, vous avez, Monsieur Diaz-Pinheiro, répondu en partie à la question que j'allais vous poser, mais je vais la requalifier dans un contexte un peu différent. On sent très bien, déjà dans les premières discussions concernant la conférence sur l'avenir de l'Europe, et j'exclus bien sûr les discussions sur la gouvernance, mais dès lors qu'on commence à rentrer dans les sujets, aussi bien au niveau des discussions qu'on peut avoir au sein même de nos commissions des affaires européennes, et je pense que le Sénat français n'est pas le seul exemple, il y a aussi des discussions en ce sens, on sent très bien qu'il y a une demande plus importante sur la poussée et l'action des parlements nationaux sur les institutions européennes. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec la secrétaire générale de la Commission européenne ainsi que le chef de cabinet de Madame von der Leyen. Et même si ils n'ont pas leur mot à dire en ce qui concerne le fonctionnement, on sent très bien qu'ils acquiescent quand on exprime le fait que les parlements nationaux doivent avoir peut-être un regard plus poussé, plus prononcé sur les questions européennes. En tout cas, ça doit être plus visible. L'organe principal sur lequel nous nous reposons, nous, c'est la COSAC. Donc aujourd'hui, et par rapport au règlement actuel, parce qu'il n'est pas, il n'est probablement pas question de changer le règlement de la COSAC, mais comment voyez-vous, vous, la façon dont on pourrait avoir une expression, en tout cas plus entendue et plus forte, relayée bien sûr par la COSAC des parlements nationaux et finalement les rendre bien plus efficaces. Je regrette, et je le dis souvent, et ça n'est pas la faute des institutions qui ont créé ce dispositif, mais donner au président des commissions des affaires européennes, des parlements des 27, 1 minute 30 pour s'exprimer deux fois par an sur une réunion principale, et même si entre-temps nous avons des auditions, je trouve que ça ressort, et le terme est peut-être fort, mais du ridicule quand on veut vraiment porter des sujets tous ensemble. En tout cas, j'en appelle un peu à votre sagacité sur cette question et savoir si vous soutiendrez, je pense, la majeure partie d'ailleurs des présidents, parce que dans les échanges bilatéraux que j'ai, je ressens qu'il y a cette volonté.
Oui. Bonjour, Monsieur Rapin. En fait, je vous à ce poste, il s'agira d'une question inévitable à laquelle le secrétariat pourra être éventuellement appelé à contribuer. C'est une question qui n'est pas nouvelle. C'est la dernière fois que la COSAC, je pense, s'est penchée sur ce sujet, c'était en 2014, pendant la présidence grecque. Il y a eu un questionnaire spécifiquement à propos de ça. Et je me souviens plus ou moins des réponses, et les réponses qu'on donnerait maintenant, ce sont plus ou moins les mêmes. La question, c'est de savoir un peu, à mon avis, et je participe en tant que staff depuis 2006, comme j'ai dit, et les choses, la constellation de la coopération interparlementaire a beaucoup changé depuis le traité de Lisbonne. Là maintenant, c'est un peu savoir comment est-ce que la COSAC peut organiser ses travaux en évoluant et pour pouvoir s'adapter dans ce paysage en constante mutation de la coopération. Vous avez évoqué déjà le fait que la COSAC est le forum le plus important pour les échanges et pour la mise en réseau des parlementaires. C'est pas par hasard que, par exemple, quand vous avez évoqué aussi la gouvernance de la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'était pas par hasard que quand le Conseil, la Commission et le Parlement européen ont pensé aux parlements nationaux, ils ont pensé à la COSAC, rien d'autre. Ils ont pensé de mettre la COSAC dans la gouvernance. Donc ça, c'est la preuve que la COSAC est vivante. Mais les suggestions que je pourrais faire, et j'évoque aussi mon expérience récente dans le cadre de la présidence portugaise, Les réunions informelles sont une possibilité à explorer, soit en physique, soit en visio. Vous avez participé, M. Rapin, aux échanges avec les commissaires et avec M. Barnier, par exemple. Et je pense que ça aide un peu à compléter les minutes qu'on a lors de la COSAC pendant le semestre. Et c'est dans un format normalement in camera, donc il y a un peu plus de liberté. Et notre, du côté du Parlement portugais, le retour qu'on a eu, c'était très positif. Les délégations ont beaucoup apprécié ce format. C'est une chose qui peut être faite en parallèle avec la COSAC, pourquoi pas. Mais je répète ici un peu, et M. Capolochanch qui est présent, et il a déjà entendu ça de ma part, je peux répéter un peu les conseils que moi j'avais donnés quand on a organisé la présence portugaise. Je pense que le secret pour le succès, c'est de cibler les débats, donc bien choisir les sujets, cibler aussi les orateurs, les personnes qu'on invite. C'est bien sûr très très important d'avoir toujours des acteurs institutionnels, les commissaires, les conseils, etc. Mais il faut garder un morceau important des débats pour la perspective parlementaire des sujets. Et pour ça, il faut toujours, à mon avis, y mettre des parlementaires nationaux, des parlementaires européens pour donner cette perspective européenne parlementaire par rapport au sujet. Par exemple, inviter les rapporteurs sur un certain sujet, inviter là maintenant qu'on discute les plans de résilience et réparation, inviter les parlements qui sont plus penchés sur ça. Donc, la suggestion pour rendre plus efficace, c'est que la présidence doit être toujours ambitieuse, mais sage. Donc, choisir bien les sujets qui sont au cœur pour la présidence, mais les sujets qui sont aussi relevants pour les autres parlements. D'un autre côté, et ça a été déjà fait, c'est possible de garder et dans l'agenda de la COSAC toujours un moment pour un débat sur un sujet d'actualité. Les choses évoluent, comme vous savez beaucoup mieux que moi, d'une façon très vite aujourd'hui. Et si on ferme les agendas de la COSAC, disons, 2-3 mois à l'avance, la veille, par exemple, quelque chose peut arriver dans une frontière ou en Syrie ou en Irak, et la COSAC doit avoir la flexibilité de répondre à ça. Ça a été déjà fait, je pense, pendant la présidence croate et la présidence allemande. On n'a pas eu la possibilité de le faire pendant la présidence portugaise, mais garder un morceau pour un débat d'actualité, c'est aussi une possibilité à explorer. Aussi, et c'est une question dont on ne parle pas assez souvent, les liens avec les autres conférences interparlementaires. Parce que là, maintenant, on a des conférences sur pratiquement tous les sujets, sur la politique étrangère, sur Europol, sur Eurojust, sur la gouvernance économique. Et la COSAC peut prendre peut-être l'initiative d'approcher les autres conférences et essayer un peu d'établir des liens de contact. Et le secrétariat peut fonctionner aussi comme la façon, au niveau de staff, de faire ces contacts et les liens. Une autre pratique, pour terminer, qui a été faite au passé, c'était les présidences qui, de temps en temps, demandent aux délégations d'identifier des sujets qu'ils voudraient bien être traités au sein de la COSAC. Ça a été fait dans le passé et ça donne aux délégations la possibilité d'inscrire des sujets sur l'agenda. Ce n'est pas, bien sûr, vinculatif pour la présidence d'y mettre sur l'agenda, mais ça donne aussi un peu l'ensemble des préférences des autres parlements. Mais bien sûr, la COSAC, le règlement de la COSAC donne à cette conférence un mandat très large, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. Mais bien sûr, le secrétariat sera à la disposition de la direction politique de la présidence pour conseiller et mettre en évidence les meilleures pratiques pour rendre les réunions plus efficaces. Merci.
Merci.
Hvala lepa obema.
Merci beaucoup. Avant de poursuivre le débat, je voudrais vous informer, chers collègues, que la vice-présidente présidente du Parlement européen, Madame Roberta Metsola, a des difficultés techniques à cause desquelles elle ne peut pas poser des questions aux candidats, mais elle a exprimé son soutien aux candidats par écrit. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite la parole? Madame Tillet, à vous la parole.
Très rapidement, une petite question quant à notre visibilité dans la presse. Est-ce que Monsieur Pinheiro, vous avez des suggestions? Moi, j'ai commencé ici à Paris d'organiser un peu des déjeuners de presse pour mettre une lumière sur notre commission des affaires européennes. Mais je dirais même au niveau européen, au niveau de la presse européenne, on est quand même assez invisible. Est-ce que vous aurez des suggestions? Merci.
Vous avez gardé la question la plus difficile pour la fin. oui, bon, en fait, c'est difficile. C'est très difficile parce que il y a une voracité de chaque jour des affaires à traiter. Nous, pendant notre présidence, ce qu'on a essayé, c'était d'être proactif. Donc, avoir un réseau, et bien sûr, je dois souligner que les rapports avec la presse ne sont pas dans le job description du membre permanent, mais je reste à la disposition pour évoluer dans ce sens si vous voulez bien. Pendant notre présidence portugaise, ce qu'on a fait, on a essayé de être le plus pédagogique possible. On avait embauché une agence de communication pour nous aider. Mais on a très vite compris que, sauf si nous, au sein du Parlement, leur donnons les contenus bien traités, bien expliqués, d'une façon vraiment ABC pédagogique aux journalistes, il n'y aurait jamais des nouvelles sur la présidence. On a aussi développé une habitude de demander aux députés d'écrire des articles d'opinion par exemple, quand on a eu la réunion sur la gouvernance économique, on avait 2-3 députés qui ont écrit, bien sûr en coordination avec cette agence de communication, des articles sur la dimension sociale. Donc il faut choisir, encore une fois, cibler les sujets, bien choisir les sujets, bien choisir les journaux ou les médias pour faire passer le message. Mais ça exige beaucoup du staff de la présidence, ça exige beaucoup des présidents des commissions des affaires européennes pour identifier les sujets, pour faire ce, permettez-moi l'expression en anglais, reach out pour la presse, parce que la presse, ils sont débordés avec d'autres sujets. Et les parlements nationaux, malheureusement, ne sont pas dans la première ligne de ces préoccupations, sauf s'il y a un carton jaune, sauf s'il y a le Bundestag qui bloque un programme d'assistance. Il faut avoir aussi, encore une fois, la proactivité. Et je pense que là, dans ce côté, les réseaux sociaux ont un rôle très important à jouer parce que la majorité des personnes entre les 25 et 35 ans ne consomment d'autres sources d'information que les réseaux sociaux. Donc, il faut beaucoup investir là-bas. Mais encore une fois, par exemple, on a eu dans notre présidence, la présidence portugaise, on a eu des orateurs d'haut niveau. Et ça nous permet aussi d'arriver à approcher la presse en disant, écoutez, on a M. Antonio Guterres, on a Mme von der Leyen, on a Michel Barnier. Donc, il faut y être, il faut accompagner, mais c'est à nous de donner les contenus. Et c'est à nous d'expliquer d'une façon très, 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 très pédagogique de quoi il s'agit, ce business des parlements nationaux et comment faire passer le message. Merci.
Hvala obema. Nadaljujemo, ali želi besedo še kdo?
Merci beaucoup. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Et donc, je remercie le candidat au poste de membre permanent.
Et maintenant, les membres de la Troïka, à l'exception de Monsieur Kapolos Santos, vont discuter de cette candidature. Donc, je demande à notre équipe technique de prévoir une chambre à part pour ceux qui ne participent pas à la prise de décision sur la candidature. Cela a été fait et donc nous pouvons continuer et ouvrir le débat sur la candidature au poste du membre permanent pour le secrétariat de la COSAC pour la prochaine période. Est-ce que quelqu'un demande la parole?
Hvala, imamo informacijo, da smo vsi prisotni. Torej, spoštovani kandidat, obveščam vas, da predsedniška trojka COSAC soglasno podpira vaše imenovanje na položaj stalnega člana sekretarijata COSAC za obdobje 2022 do 2023, ki pa ga bodo formalno potrdili predsedniki COSAC na torkovem delu plenarnega zasedanja COSAC.
Plenary meeting. Before we close this agenda item, I think we can continue with our agenda. Well, actually, we can now move to our sixth agenda item. And here we will proceed with the presentation of the letters sent by the presidency. We have received letters from the parliaments of Kosovo, Georgia, and also from the House of Commons, expressing their wish to participate at the 66th COSAC plenary meeting. Following consultations with the presidential troika, positive replies have already been circulated and invitations also to attend the plenary have been sent out. We have also received a letter from the director of the European Union Agency for Fundamental Rights, Mr. Michael O'Flaherty, requesting participation in the COSAC plenary as one of the key speakers during the third panel, which will discuss the perspective of the young people in EU decision-making processes and on their role in the future. In the reply, the presidency invited Mr. O'Flaherty to attend a COSAC plenary meeting as an observer. We have also received a letter from Mr. Andrei Benešík, chairman of the EU Affairs Committee at the Chamber of Deputies of the Czech Republic. And in this letter, they sent the conclusions of the meeting of EU Affairs Committees of the Visegrad Group to the Bureau. To the secretariat. And the document has already been sent out to all COSAC parliaments for information. With this, I would like to close this agenda item and we can move to AOB. Would anybody like to take the floor under AOB, item 7 on today's agenda? I don't see any requests for the floor, which means that we can conclude this item on the agenda as well, which brings us to the conclusion of our meeting. As we are at concluding, I would like to thank all those present here today, and I wish the French side, which is taking over the presidency of the Council of the EU, all the best. We will again, of course, meet on Monday during the 66th COSAC plenary meeting. And with this, I would like to return the floor to Mr. Pogačnik. Thank you, Bojan. Dear colleagues, also, I would like personally to thank you for your constructive cooperation during the Slovenian presidency. And I would also wish my French colleagues great success during the incoming presidency. I believe that we will continue to work just as positive also in the future. Thank you very much for being with us today, and I very much look forward to seeing you on Monday.